Le général, qui connaissait la vie, s'arrêtait devant le secret de son cœur. Elle paraissait s'échapper de tout. Qu'elle ne fût pas facile pourtant, c'était l'évidence. Dans ce pays, elle a laissé une trace qui n'a pas disparu, et ceux qui l'ont aimée ressemblent à des ombres. Que si le général eût été plus jeune, elle eût peut-être choisi d'être sans détour, vouée à lui seulement, dédaigneuse par force des passions toujours recommencées. Mais l'âge du général lui interdisait de rêver d'être, un jour, vieille avec un homme, tous les deux ensemble. L'âge du général lui interdisait l'ascèse, la rejetait, malgré elle, vers le temps et vers la vie. Le sachant, elle voulait faire en sorte que cette vie-là fût quand même, quoi qu'il arrive, la moins laide possible. Sans se cacher, ils passèrent devant un groupe de cochers. Les hommes retirèrent leurs grands chapeaux de feutre et la suivirent des yeux. Comme eux, Augustin l'admira. Il ignorait, croyait-il, très peu de choses de lui-même. Il n'était pas arrivé à son âge sans s'attacher. Il avait connu le reste, les danseuses nues et les modèles de peintres qui forment la société des internes parisiens. Une séparation et surtout le souvenir de sa mère dans la vie de son père lui avait fait entrevoir d'autres abîmes. Il eut peur. Deux faibles lumières éclairaient le bâtiment de bois blanc aux courbes indiennes. Antoine Pierre entendait pour la première fois le prénom du général « Aime les insectes et moi les fleurs ». « C'est curieux d'aimer les fleurs, vous ne trouvez pas en effet », répondit Augustin à la gorge serrée. « C'est curieux aussi d'avoir choisi cette maison, je ne l'ai pas vraiment choisie. » Un instant, il fut vulnérable. « Si Dieu me refuse, le diable me prie », c'est la devise des Bussy. Augustin sourit. « Moi je suis un pauvre seigneur, pas même un Faust d'hôpital ». Elle se rapprocha un peu, « Je ne toucherai à rien, c'est promis, la guerre ne me dit rien. » Autour d'eux des buissons de roses aux couleurs extravagantes, la main gantée se posa sur son bras, « Comme vous me rappelez Londres, vous êtes si froid, je ne suis pas froid » répondit-il. Ce fut elle qui l'embrassa, puis elle lui dit à l'oreille, d'une voix de petite fille, « Voilà, maintenant le monde est à sa place. » Augustin fit effort pour rester, alors qu'il aurait tant voulu être seul. Il s'assit un moment pour écouter le quintet que Marie-Antoinette avait fait venir de Bourges et dont les musiciens présentaient des figures d'honnêtes conscrits. Enfin, il put s'en aller sans avoir l'air d'un voleur. Il retrouva le chemin de plaine, le rideau protecteur des bois, le cirque de verdure penché sur la maison. « C'est le seul sortilège, dit-il à voix basse, facile, la vie simple et tranquille, l'amour et le mensonge. » Puis il s'en voulut d'avoir prononcé ces mots. 11 Romain Klein s'assit près du lit de fer, le calepin ouvert sur les genoux. Alcossé semblait dormir, les mains croisées sur sa poitrine. Son torse amaigri et qui flottait dans le gilet à demi boutonné se soulevait en mesure. La barbe n'était plus faite avec le soin de naguère, elle montait vers les pommettes et descendait presque au milieu du cou. En même temps, le poil était devenu plus rare, plus pauvre et comme cassant. Ce visage dont Klein avait appris que les dames l'aimaient lui fit l'effet d'un jardin abandonné, envahi par les herbes. Un jardin potager, pensa-t-il. Ainsi le contraste serait plus saisissant encore entre les lignes utiles du début et le désordre de la fin. Ou un verger comme chez moi, avec ces pommes par terre qu'on n'a pas ramassées et qui pourrissent dans les tons jaunes. Un verger pour reconnaître l'arbre à ses fruits. Il n'était pas jusqu'au célèbre teint du professeur, ce teint mat qui évoquait Sagoua-la-Grande et ses prestiges, qui ne se fut dégradé, prenant les couleurs amères du vieux parchemin. Les yeux d'Alcossé s'ouvrirent pour se refermer aussitôt. Klein ne perdait rien du manège. Tout d'un coup la voix d'Alcossé s'éleva. Une voix sourde et rauque, contrefaite, qui paraissait ne pas lui appartenir. « Regarde dans le tiroir, foutriquet. Le père Dieulvolt est dans le tiroir. » Tu devrais lui donner de l'air. » Klein demeura sans bouger et écrivit quelques mots dans son carnet. Alcossé éclata d'un rire sec puis, calme mais d'une voix forte, « Il y a bien longtemps j'ai créé le paradis. C'est moi qui l'ai voulu comme il est, avec ses immenses tables blanches et son vin de Bordeaux. Au début j'y organisais des fêtes. On y voyait des perruques poudrées et des femmes, le son des violoncelles, tout l'équipage délicieux des grands. On y chassait aussi. Les aboiements des chiens français fatiguaient les anges. Non, pas dans les nuages. On ne sautait pas d'un nuage à un autre. Vous êtes des enfants. Le paradis n'est pas dans les nuages. Au printemps, je rebattais les cartes et chacun s'en allait vers un nouveau destin. Je m'intéressais surtout au destin des bateaux. J'ai lancé de vieux trois-mâts barques sur Bonne Espérance. Je suis un dieu cruel et compatissant tout ensemble. Je ne suis pas un dieu méchant. Ce qui est curieux, pensa Klein, c'est l'indifférence avec laquelle il débite son couplet. Un autre parle, à moins qu'il ne soit plus rien que ce qu'il dit, belle théorie en perspective. Il n'y a pas de dieu méchant. Les théologiens sont des ânes. Il y a un dieu joueur, comme un enfant qui coupe les membres des insectes. Je peux être malheureuse aussi. Dieu peut tout, même être malheureux. Au-dessus de moi, je devine un dieu plus grand que moi, et au-dessus de lui un dieu plus grand que lui. Une immense échelle de Dieu, ça n'est pas tout à fait dépourvu de sens, se dit Klein. Le vieux chaos, je l'ai sous la main, ou plutôt dans mon esprit. Je le tiens prêt à déferler sur le monde. Au même instant, je suis l'ordre et le désordre. Je tiens les deux bouts de l'univers. Au moment où la Samaritaine m'offrait de l'eau près du puits de Jacob, je ne cessais pas de créer le monde, seconde après seconde, par l'exercice continu de ma volonté toute puissante. Et je savais quand il allait finir, puisqu'il suffit que…